Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une, l'acte 12 des Gilets jaunes et un mot d'ordre pour les manifestants. Stop aux violences policières et non à l'utilisation des lanceurs de balles de défense autorisés hier par le Conseil d'État. En tête de cortège à Paris, Jérôme Rodriguez, blessé justement la semaine dernière, place de la Bastille. En région, Valence dans la Drôme ressemble à une ville en état de siège alors qu'on attend 6 à 10 000 gilets jaunes. Vous entendrez aussi dans ce journal le ras-le-bol des commerçants bordelais. Toujours dans le journal de la mi-journée, de la viande avariée polonaise s'est bien retrouvée dans l'assiette des consommateurs français. On en parlera avec mon invitée Pascale Hébel, directrice du pôle consommation du Crédoc. Nous serons au Venezuela avec une grande marche dans quelques heures pour réclamer de nouvelles élections. Le journal des sports est terrible défaite du 15 de France face au Pays de Galles pour son entrée dans le tournoi Destination. C'était hier soir au Stade de France. Enfin la météo, attention aux chutes de neige. 7 départements en vigilance orange en région Rhône-Alpes-Auvergne.
Europe 1.
12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et un mot d'ordre ce samedi, dénoncer les violences policières et l'utilisation des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre. À Paris, cela se traduit par une manifestation baptisée « Marche des blessés ». Pierre Herbulot, vous suivez le cortège pour Europe 1 qui est parti du 12e arrondissement de la capitale. Et en tête de cortège, il y a justement une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez, qui a été blessé la semaine dernière, place de la Bastille.
Oui, Jérôme Rodriguez, acclamé en héros par les milliers de gilets jaunes rassemblés ici. Il est devenu, depuis la semaine dernière et sa blessure à l'œil, vous le disiez, le symbole des violences policières dénoncées aujourd'hui sur la pancarte d'un manifestant. Patrick, une photo, celle de Fiorina, elle aussi blessée à l'œil lors d'un précédent rassemblement.
C'est une personne qui manifestait et qui a attrapé un coup de flashball en pleine figure.
Vous la connaissez cette femme ?
Non, je ne la connais pas. C'est des, parmi nous, c'est des manifestants. Comme les autres. Il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a plusieurs. Ça aurait pu être n'importe qui, elle était pacifiste, elle se promenait à nos côtés et elle a pris un flashball en pleine figure.
En marque de soutien aux 1900 blessés depuis le début du mouvement, de nombreux manifestants sont venus avec des bandages ensanglantés noués autour de la tête. C'est le cas de Christophe.
Pour l'instant, nous, on a réussi à passer à travers, ça a été chaud, c'est chaud. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on part sur une manif, on ne sait pas si on va revenir ou pas. Même si on reste à l'écart des violences. Rien que la semaine dernière, hein, samedi dernier, Bastille, ça a chargé une première fois dû à des nationalistes et les Black Blocs qui ont foutu un peu la merde. Ça s'est calmé et après on a eu des charges, des grosses charges de la part des forces de l'ordre incompréhensibles.
Christophe parlait à l'instant des Black Blocs, un groupe anarchiste d'extrême gauche. Eh bien, ils sont là aussi aujourd'hui, environ 200, et font de brèves apparitions dans le cortège avant d'être littéralement chassés par les Gilets jaunes.
Pierre Herbulot dans le cortège parisien, alors qu'on le rappelle, cette manifestation a lieu alors que le Conseil d'État a donné son feu vert hier au maintien de l'usage des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre. Mobilisation à Paris et encore cette semaine en région, direction Valence dans la Drôme. C'est l'une des villes choisies comme principal point de ralliement des Gilets jaunes pour cette journée. On attend entre 6 et 10 000 personnes. Rémi-Pierre, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous êtes, Rémi, dans une ville, on va le dire, en état de siège.
Oui, à commencer par l'accès à Valence qui est très compliqué depuis tôt ce matin. Rocade coupée, sortie d'autoroute fermée et puis à chaque rond-point, ou presque, eh bien contrôle et fouille éventuelle des véhicules. Le centre historique lui est tout simplement bouclé, il n'y a qu'un seul point d'accès et il faut montrer patte blanche, en l'occurrence un justificatif de domicile pour pouvoir y rentrer. À l'intérieur, les rues sont désertes et la place du marché aussi, constate Sabine, une habitante.
Bah là c'est désertique, ça fait une drôle d'atmosphère en fait, hein. Tous ces barrages, ça fait vraiment presque ville morte en état de siège quoi.
Alors à part une boucherie, une supérette et un ou deux cafés, tous les commerces sont fermés, c'est ce que déplore de son côté Caroline.
Qu'il n'y ait plus aucun commerce d'ouvert, ça nous surprend quand même. Que tout soit vraiment complètement fermé, c'est surprenant.
Une mise sous cloche de la ville que dénonce également Michel. Pour lui, c'est tout simplement un moyen de faire taire les gilets jaunes, de les rendre invisibles.
C'est un peu comme si on les empêchait de parler, en fait. Et qu'on leur disait, vous n'avez pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Et ville morte, donc comme ça, il n'y a personne pour entendre les slogans, les revendications. C'est dommage.
Des gilets jaunes qui, en tout cas pour l'instant, sont très discrets. Un premier rassemblement était prévu à 10h, place du Champ de Mars, et il n'y avait personne. La manifestation principale doit débuter, elle, à 13h.
Rémi-Pierre à Valence dans la Drôme pour Europe 1. Alors, il n'y a pas qu'à Valence qu'on redoute des violences ou des dégradations. C'est le cas aussi à Bordeaux, qui samedi après samedi reste un point de convergence des gilets jaunes dans le sud-ouest, d'où le ras-le-bol des commerçants qui ont reçu la visite d'Édouard Philippe hier. Comme Laurent Ménanteau, il dirige une agence de voyage.
Je me retrouve souvent dans la situation où j'ai à ma gauche les CRS et à ma droite les manifestants, je suis au milieu. Je me positionne devant ma vitrine, j'empêche le premier coup de marteau et le premier tag. Qu'est-ce que veulent les gilets jaunes en réalité? On ne va pas dialoguer, on continue de manifester, on continue de casser, on continue d'empêcher les commerçants de faire leur travail. Alors tous les samedis, il se passe quoi et ils veulent quoi tous ces gens en fait? Comme je disais au Premier ministre, il y a la violence physique, verbale parce qu'on se fait insulter, etc. Mais il y a la violence économique aussi. Parce que moi, mon commerce, il a entre moins 40 et moins 50%. C'est juste intenable. Ben, à partir du mercredi, on se demande qu'est-ce qui va se passer samedi. Le samedi matin, de toute façon, je suis inapte à vendre n'importe quoi, parce que c'est juste pas possible. Je pense à qu'est-ce qui va se passer cet après-midi. Et l'après-midi, ben, je monte la garde devant ma boutique. Moi, j'insiste sur le caractère urgent. On a besoin aussi que tout ça, ça s'arrête, quoi.
Laurent Ménanteau, commerçant à Bordeaux, au micro Europe 1 de Stéphane Place.
Europe 1, 12h36.
Des consommateurs français ont bien eu dans leur assiette de la viande de bœuf polonaise avariée. En tout, 150 kilos vendus dans des boucheries. Sur les 800 kilos rentrés frauduleusement en France, les services sanitaires cherchent encore la trace de 150 kilos. Le reste a été détruit. La grande distribution n'est pas concernée. Mais on ne sait toujours pas, Aurélien Fleureau, par quel circuit cette viande a pu se retrouver sur l'étal des bouchers.
Oui, exactement. La seule précision apportée par le ministère de l'Agriculture, c'est que ces 150 kilos ont été vendus notamment par des boucheries. Alors, aussitôt informées, elles ont installé des affichettes pour prévenir leurs clients, mais pas encore de certitude sur le type de filière qui a fait venir cette viande de Pologne en France. Pas plus d'indications non plus sur la date à laquelle elle a été achetée. Des réponses souhaitées par Jean-François Guillard, président de la Confédération des bouchers charcutiers.
Déjà, la majorité des bouchers travaillent de la carcasse entière et non du sous-vide découpé comme ça. Ça peut être peut-être une boucherie grossiste, ça peut être peut-être une boucherie discount. Moi, je suis le représentant des 18 000 artisans bouchers. Je crois que les artisans bouchers ne font pas ce travail. Il faut être sérieux dans cette fraude parce que c'est tout simplement une fraude. Je crois qu'il faut que les services de l'État agissent rapidement, comme ils l'ont fait. Mais derrière, il faut qu'aussi il y ait des condamnations rapides.
Alors la France n'est pas le seul pays européen concerné et même si la Pologne a assuré après expertise que la viande était saine, la Commission européenne a dépêché des inspecteurs en Pologne pour mener leur propre enquête.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, a été l'invitée de la matinale d'Europe 1. Christiane Lambert, vous allez l'entendre en colère.
Révoltée de voir que des circuits commerciaux comme ça existent encore. En France, nous avons une rigueur sanitaire très élevée. Nous la respectons. Nous avons même la traçabilité sur les produits transformés. Et c'est totalement anormal que des opérateurs, par cupidité, pour gagner plus, fassent rentrer des viandes peu sûres comme celle-ci. Il y a une fraude commerciale terrible.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, invitée ce matin de Bernard Poiret sur Europe 1. Et ce scandale de la viande avariée polonaise, on en reparlera avec mon invitée Pascale Hébel, directrice du pôle consommation du Crédoc, dans quelques minutes. Plusieurs centaines d'automobilistes interdits d'accès aux stations de ski, la faute aux fortes chutes de neige qui sont tombées hier sur la Savoie. Heureusement, personne ne s'est retrouvé piégé dans sa voiture. Mais plus de 600 personnes ont dû être hébergées en urgence à Flumet ou encore à Saint-Jean-de-Maurienne, comme Corinne, qu'a pu joindre Romain Oquet.
La route était bloquée, donc on n'a pas pu monter, donc on est resté sur Saint-Jean-de-Maurienne. Les policiers et les gendarmes arrêtaient chaque voiture pour nous demander où on allait. Et dès qu'on montait en station, ils nous disaient que les routes étaient coupées, donc il fallait se réorienter sur les gymnases. Comme on a un chien, en fait, on a été dans les vestiaires, donc on avait un vestiaire pour nous. On a vraiment passé une nuit tout à fait correcte. Bon, voilà, ils nous ont offert un petit peu à boire, un petit peu à manger, du thé, du café, du chocolat. Non, mais c'est incroyable, hein. Formidable, quoi. Vraiment, on dormira mieux ce soir, mais c'est tout. Pour nous, il n'y a plus de galère, voilà.
Voilà, Corinne au micro de Romain Oquet qui a hâte, on l'imagine, de monter en station. Notez que 7 départements sont en vigilance neige. On y reviendra avec Valérie Darmon dans le point Météo. Et dans un instant, en direction le Venezuela avec une grande manifestation à l'appel de Juan Guaido. Le président autoproclamé réclame des élections libres.
12h41, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et journée test pour l'opposition au Venezuela. Juan Guaido, le président autoproclamé, appelle à une grande marche à travers tout le pays. Il réclame de nouvelles élections, une manifestation alors que l'Union européenne fait monter la pression sur l'actuel chef de l'État, Nicolas Maduro. Les 28 lui donnent jusqu'à demain pour annoncer un nouveau scrutin. Autrement, ils reconnaîtront Guaido comme président. Juan Guaido qui veut donc faire une démonstration de force aujourd'hui. On retrouve à Caracas Pascal Ménaud.
Pour cette manifestation, les organisateurs ont vu les choses en grand. Ils ont désigné 5 points de départ dans la ville. Les cortèges rejoindront ensuite une grande place où s'exprimera Juan Guaido à la mi-journée. José et Martina ont déjà choisi leur point de rassemblement. Pas question pour eux de rater cette manifestation.
Oui, j'irai. J'essaye toujours de participer à chaque rassemblement. Tant que ma santé me le permettra, j'irai manifester.
Moi aussi j'y vais. Et je pense même que ce sera la plus grande qu'on a connue depuis longtemps.
Et même si le monde entier a les yeux braqués sur le pays en ce moment, la députée Olivia Lozano redoute que, comme durant les manifestations de la semaine dernière, il y ait des blessés et des morts.
C'est possible, car le régime n'aime pas le peuple. Il ne le respecte pas, ça ne l'intéresse pas. Sa seule réponse, c'est la violence.
Sa collègue Adriana Pichardo veut croire, elle, à une prise de conscience des policiers et des militaires.
On a des informations selon lesquelles certains membres des forces armées ne respectent plus les ordres de Maduro ou les ignorent. Ils comprennent que ce que nous faisons, c'est un processus légal et c'est là le seul but de Juan Guaido.
Le choix de cette date n'est pas anodin puisque ce 2 février marque les 20 ans de l'accession au pouvoir d'Hugo Chavez, le mentor de Nicolas Maduro. Caracas, Pascal Ménaud, Europe 1.
Et c'est à 15h que cette grande manifestation doit débuter. On retrouvera Pascal Ménaud dans tout terrain pour voir ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela. Retour en France avec une invitation au voyage pour la folle journée de Nantes. Voilà le thème retenu pour l'édition 2019 de ce marathon musical. On embarque avec Thierry Geffrotin.
Le public aura beaucoup voyagé durant cette 25e folle journée avec Leonard Bernstein et son célèbre West Side Story, interprété par 4 saxophonistes venus de Cologne. Voyage en Espagne avec un compositeur russe, Mikhail Glinka. Une escapade en Europe centrale avec une fanfare roumaine. Beaucoup plus loin encore avec un chœur japonais venu à Nantes pour chanter de la musique traditionnelle. Voyage enfin à Vienne avec Mozart et son si beau concerto pour clarinette.
Thierry Geffrotin avec effectivement cet air de Mozart dont on ne se lasse pas, le concerto pour clarinette.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
Et à la fin, c'est la France qui perd. Beaucoup moins joyeux, nouvelle défaite du 15 de France en match international hier soir. Quelle entrée en matière pour le tournoi Destination.
Oui, en ouverture de ce tournoi face aux Gallois, les hommes de Jacques Brunel ont fait une bonne première période, menant 16-0 à la pause avant de craquer en seconde période comme ils l'ont trop souvent fait ces derniers mois et même ces dernières années. Défaite 19-24 et dire que le prochain match, ce sera chez les Anglais. L'arrière Maxime Médard répond à Simon Rubin.
Il y a le match d'Angleterre la semaine prochaine. Il faut se relever la tête et une phrase bateau, on va continuer à travailler pour essayer de pas faire les mêmes erreurs la semaine prochaine.
Et en plus, on est en année de Coupe du Monde.
Oui, la Coupe du Monde qui aura lieu cet automne au Japon. Et je vous propose d'écouter ce que disait Bernard Laporte, le président de la Fédération française, avant le début de ce tournoi Destination.
C'est une grande saison, année Coupe du Monde. Donc un tournoi Destination capital avant une Coupe du Monde. Capital pourquoi ? Parce que si tu le négocies mal, ben, tu vas à la Coupe du Monde avec beaucoup de doutes. Et qu'au contraire, si tu fais un bon tournoi, tu y vas avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, ce n'est pas significatif de victoire dans la Coupe du Monde, mais c'est quand même plus facile d'attaquer une Coupe du Monde en sortant d'un tournoi réussi.
Bernard Laporte qui sera par ailleurs l'invité de Lionel Rousseau en présence d'auditeurs d'Europe 1 demain soir à 20h.
Grand oral passionnant vu ce début du tournoi Destination en perspective. Le football à présent, pas de match de Ligue 1 cet après-midi pour cause de gilets jaunes.
Et oui, les forces de l'ordre sont une nouvelle fois mobilisées. Du coup, les matchs de l'après-midi auront lieu ce soir avec une rencontre de bas de tableau entre Angers et Dijon à 20h. À 21h, Reims recevra Marseille avec sa recrue Mario Balotelli. Autre rencontre de la 22e journée de Ligue 1 qui était, elle, programmée dès le départ ce soir. Monaco-Toulouse et Rennes-Amiens hier. Rappelons que Lille a dominé Nice 4-0.
Alors, il y a tout de même un match prévu cet après-midi, mais un match de Coupe de France.
Oui, car il avait déjà été plusieurs fois reporté. Le dernier 16e de finale de Coupe de France entre l'Entente Sannois Saint-Gratien, club de National, et le FC Nantes, club de Ligue 1, bien sûr, aura lieu à 15h dans le Val d'Oise à Saint-Gratien. Donc.
Et puis un joueur français rejoint le prestigieux FC Barcelone.
Jean-Claire Todibo, qui devait rejoindre cet été le Barça, est finalement arrivé en provenance de Toulouse dans les dernières heures du mercato hivernal. Le jeune défenseur va côtoyer Lionel Messi avec des étoiles plein à les yeux. Jean-Claire.
C'est vraiment un rêve de gamin et je suis très fier. Et ce que j'attends ces trois prochains mois, c'est d'apprendre des joueurs qui sont à côté de moi et surtout progresser parce que je suis là pour ça et je suis encore jeune.
Voilà, il est encore jeune, effectivement, 19 ans, propos recueillis par le correspondant d'Europe 1 en Espagne, Henri de Laguérie. Et puis pour vous signaler que la dernière épreuve de vitesse avant les championnats du monde de ski alpin, la descente homme de Garmisch-Partenkirchen, a été annulée ce matin en raison des chutes de neige sur la station bavaroise.
Eh bien, il n'y avait pas meilleure transition. Merci beaucoup Axel May avec la météo de Valérie Darmon. Forte chute de neige, on en a parlé dans le journal de ces Absolument. Dizaines d'automobilistes qui ont dû être hébergés à Saint-Jean-de-Maurienne à cause de ces chutes de neige. Ça ne va pas s'arranger puisqu'il y a 7 départements en vigilance orange-neige, Valérie.
Et oui Fabienne, alors on a la Lozère, le Cantal, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie à cause donc des précipitations très marquées qui remontent actuellement de Méditerranée sur l'Ardèche, la Haute-Loire, le Cantal, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. La limite pluie-neige est aux alentours de 1000 mètres, elle va baisser aux alentours de 400 à 500 mètres. La neige tombe absolument sans interruption et en fin d'après-midi, ces précipitations neigeuses vont se décaler progressivement à l'est du Rhône. Alors ce soir et cette nuit, ce sont les départements alpins, Isère, Savoie et Haute-Savoie qui seront particulièrement exposés. On en reparlera bien évidemment. Et au-dessus de 800 à 1000 mètres, on attend 20 à 40 cm hein, sur le sud notamment du Massif central. Le vent du nord qui va souffler aussi ce soir jusqu'à 70 km/h, localement 80 sur les Cévennes, va aussi favoriser l'apparition des congères.
Et ailleurs, en un mot, c'est comment ?
Alors c'est gris, c'est chargé, plus sec évidemment que ce matin, sauf sur l'arc atlantique, de plus en plus ensoleillé. Vous retrouvez déjà des éclaircies, et les maximales, elles aussi, entre 3 à Saint-Étienne et 13 degrés à Nice, elles sont pile dans les normales de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon pour ce point très complet. À suivre, les services sanitaires sont toujours à la recherche de 150 kilos de viande avariée rentrée frauduleusement en France. Ce nouveau scandale va-t-il avoir un impact sur notre consommation de viande ? On en parle dans un instant avec mon invité Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc.
Il est 12h50, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle et votre témoin de la semaine.
On a donc appris hier qu'une partie de la viande de bœuf avariée polonaise avait bien fini dans l'assiette de certains consommateurs français, au moins 150 kilos vendus dans des boucheries, pas dans le circuit de la grande distribution. 150 kilos sur les 800 rentrés frauduleusement en France. Les services sanitaires, on le disait dans le journal, sont toujours à la recherche de 150 kilos restants. Alors les consommateurs doivent-ils s'en inquiéter? Surtout, est-ce que cela peut induire un changement de leurs habitudes de consommation? Bonjour Pascale Hébel.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, le Crédoc qui scrute, on le sait, nos modes de consommation justement. On va revenir avec vous aussi dans un instant sur l'entrée en vigueur de la loi alimentation avec à la clé des hausses de prix en grande surface depuis hier. Mais d'abord, revenons sur ce nouveau scandale de viande avariée. Vous qui avez justement fait une étude sur l'impact qu'avait eu le scandale à la fraude à la viande de cheval sur la consommation, 12% de baisse je crois entre 2000 et 2016 et une baisse plus importante au moment justement de ce scandale, de cette fraude. Est-ce que cette nouvelle affaire, ça peut induire la même chose, c'est-à-dire on va changer nos comportements, on ne va pas avoir envie d'aller acheter de la viande de bœuf?
Oui, alors c'est déjà très très vrai depuis longtemps. On a diminué notre consommation de viande de bœuf depuis le début des années 80, au démarrage pour des raisons nutritionnelles. Et donc là, avec la crise de la fraude à la viande de cheval, on a en effet eu une accentuation de cette baisse. Et là, cette nouvelle crise va réaugmenter les peurs qui étaient déjà à son paroxysme en 2016. Donc on est vraiment dans un contexte où on accumule tous les éléments qui font que les Français sont de plus en plus inquiets sur de ce qu'ils mangent. Et c'est vrai que c'était déjà sur la viande qu'on avait les plus fortes inquiétudes.
Pourquoi ?
Alors déjà, la viande rouge, c'est un imaginaire, le rouge, qui n'est pas très favorable par rapport au blanc, hein, qui est une symbolique beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Et il y a toujours eu de tout temps beaucoup de problèmes sur la viande rouge. Dans les premiers abattoirs, on a toujours eu des maladies, etc. C'est des produits qui sont beaucoup plus difficiles, en effet, à être maîtrisés en termes de sécurité sanitaire. Et donc, le fait qu'il y ait encore un événement et que ça touche les boucheries, puisque finalement, c'est des produits qui ne sont pas essentiellement dans des plats cuisinés, comme ça a été le cas de la fraude de
la viande de cheval, avec la fameuse lasagne.
Voilà, et puis quand on a eu aussi la toute première crise de la vache folle, ça touchait tous les produits. Donc là, évidemment, ça va encore donner plus d'éléments pour que les consommateurs s'éloignent de ces produits-là. Donc ça va accentuer la baisse, puisqu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui qui sont bien-être animal, qui sont les critères de santé, l'écologie, qui faisaient baisser ce produit-là.
C'est un argument supplémentaire, vous nous dites, en gros, pour les véganes.
Alors bien sûr, tous ceux qui sont animalistes et qui défendent l'idée qu'il faudrait arrêter tout l'élevage, évidemment, vont s'emparer de ce sujet-là. Il y a déjà des ONG qui disent qu'on nous cache tout et qu'évidemment, il faudrait changer les choses.
Est-ce que ça vous étonne que ce type de fraude soit encore possible ?
Ah, je pense que c'est compliqué de les éviter parce que ce sont des produits qui, en valeur, sont assez chers. Et on sait que les fraudes, elles sont toujours lieu sur des produits, on cite le safran, etc., sur des produits marchands qui ont une valeur au kilo importante. Et donc évidemment, de jeter cette matière quand en effet les animaux sont malades.
Et la viande de base, ça reste cher.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, le prix au kilo de cette viande-là n'a pas beaucoup baissé au cours du temps par rapport à d'autres produits, notamment la viande de volaille, la viande de porc, qui relativement sont beaucoup, beaucoup moins chères. Et donc, cette matière première est chère. Et donc finalement, ça fait toujours, pour ceux qui sont dans ces métiers-là, jeter des animaux parce qu'ils sont malades, ça fait une grosse perte. Donc en effet, c'est beaucoup plus difficile dans ce secteur-là que sur de la volaille, par exemple.
Vous parlez prix, justement. On va revenir à la loi alimentation qui vient d'entrer en vigueur, une loi qui entraîne mécaniquement des hausses de prix en grande surface, car les magasins n'ont plus le droit, de vendre à prix coûtant ou de faire des marges trop faibles, en deçà de 10%. Le but, a priori, c'est de mieux rémunérer les producteurs. Mais est-ce que le consommateur est gagnant ? On a parlé, par exemple, chez Carrefour, d'une hausse de 3% sur un millier de produits. Alors, d'un autre côté, Michel-Édouard Leclerc, sur notre antenne, parlait d'enfumage total.
Non, c'est certain que ce n'est pas le consommateur qui est gagnant. C'était, ça n'a pas du tout été fait pour ça, puisqu'au contraire, ça a été fait pour donner de la valeur à l'agriculteur. Donc le consommateur, c'était certain, il allait payer plus cher en moyenne ses produits, puisqu'il y aura moins de promotions. Donc ça ne va pas forcément toucher tout le monde, parce que tout le monde n'allait pas rechercher les têtes de gondole et chercher 50% de réduction sur des produits.
Mais est-ce que justement, ce n'est pas les consommateurs, on est en pleine crise des gilets jaunes, qui avaient des problèmes de pouvoir d'achat, qui allaient chercher justement ces promotions ?
Ceux qui vont chercher des promotions, souvent quand même un peu de moyens, parce qu'il faut pouvoir stocker. Donc il faut déjà pouvoir sortir un peu de cash. Donc ce ne sont pas les plus modestes, ce sont les classes moyennes. Forcément, mais c'est pas forcément ceux qui ont plus de difficultés à vivre et à s'alimenter, puisqu'il y a quand même de l'insécurité alimentaire en France, des gens qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent. Donc c'est pas forcément ceux-là, mais ça va toucher ceux qui ont une part de leur budget consacré à l'alimentation important, et ce sont les classes moyennes qui vont voir leur pouvoir d'achat qui est touché par ça. Il faut juste dire quand même que les produits bruts, les produits frais, les fruits et légumes étaient les secteurs où il y avait beaucoup de marge. Donc là, il n'y aura pas de hausse de prix. C'est-à-dire que si les distributeurs jouent le jeu sur ces produits-là, on n'aura pas de hausse de prix. Et donc, en termes d'alimentation saine, on peut espérer que ça ira dans le bon sens.
Vous dites quand même que les gens vont manger moins et manger des produits moins chers.
Alors, ce qu'on a constaté, c'est que quand on a vu une hausse de prix très très forte, c'était en 2007, on a eu une hausse de prix de 5%. Mais là, il n'y aura pas ça. On n'aura pas une hausse aussi forte que ça. Les consommateurs n'ont pas mangé moins bien, mais ils ont moins mangé. Ce qui d'ailleurs a été meilleur, puisqu'on avait vu baisser l'obésité. Donc, ça a plutôt été favorable, mais ce n'est pas forcément comme ça.
Et ce n'était pas forcément vu de la loi alimentation.
Ce n'était pas forcément le loi, mais à l'époque, c'était parce qu'il y avait des hausses de prix de matières premières. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les Français Français sont sensibles quand même aux agriculteurs. Donc je pense qu'une partie de la population peut accepter des hausses de prix, notamment sur le lait, dès qu'on sait que directement ça va aller sur l'agriculteur. Et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des contrats qui ont été faits sur ces producteurs-là, où il y aura bien quand même une remise de valeur sur l'agriculteur.
C'est pas ce que dit Michel-Édouard Leclerc.
Alors, il a été. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il dit. Évidemment, cette enseigne-là, son seul axe pour attirer des clients, ça a toujours été de dire qu'il faisait des prix bas. Donc, il a toujours été à contre-courant par rapport aux autres acteurs sur ces sujets de prix.
Merci beaucoup, Pascale Hébel. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Et je reviens à ce scandale de la viande avariée. Vous nous dites bien que même si les quantités dont on parle, 150 kilos encore dans la nature, ça peut influer quand même effectivement sur cette défiance qu'il y a par rapport à ce produit qui est la viande.
Oui, parce que ça peut renforcer ceux qui ont déjà commencé à baisser leur consommation. Et c'est vrai que tout le monde a commencé à diminuer sa consommation. Chez les ouvriers, il y a moins 20% en 10 ans. Chez les cadres, même chose. Moins 20% en 10 ans de consommation de viande.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce midi. On rappelle que cette tranche d'information se poursuit jusqu'à 14h avec Tout Terrain. Et dans Tout Terrain, on reviendra sur l'incertitude autour du sort de l'usine de Blanquefort en Gironde. Vous entendrez aussi des témoignages édifiants de jeunes collégiens sur l'homophobie qui montrent combien il est urgent qu'une grande campagne de sensibilisation soit lancée. Et je vous emmènerai dans les coulisses de l'exposition qui fait polémique à Paris, Dao ou la plongée au cœur de l'URSS des années 30.
Tout Terrain, ce sera juste après le rappel des titres de l'info. À tout de suite. L'essentiel de l'actu, Fabienne Lemoyle.
L'acte 12 des Gilets jaunes avec une mobilisation en ce moment à Paris, principalement centrée sur les violences policières, manifestation baptisée Grande Marche des Blessés, avec en tête deux cortèges Jérôme Rodriguez, blessé la semaine dernière, place de la Bastille à Paris. Nouvelle journée de manifestation au Venezuela, Juan Guaido appelle à une grande marche pour des élections libres. On en reparle dans quelques minutes dans Tout Terrain. Les sports avec le 15 de France qui débute le tournoi des 6 nations avec une défaite 24-19 hier soir face au Pays de Galles au Stade de France. Et puis plus de 600 automobilistes interdits d'accès aux stations à cause de fortes chutes de neige hier soir en Savoie. Heureusement, personne n'est resté coincé dans sa voiture. Ils ont tous été hébergés dans des centres. La météo avec justement 7 départements en vigilance orange sur la région Rhône-Alpes, Auvergne.